La bisexualité, bah moi je suis bi, c'est moi. Je suis officiellement. Non, ouais, bah la bisexualité c'est trop chouette. L'ouverture des jeunes peut-être à des nouvelles sexualités ou à se réapproprier la façon de relationner.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous accueillir dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions. Et aujourd'hui, alors qu'on s'apprête à zoomer sur la bisexualité et que Quentin, malgré les 1000 grammes de bromure qu'on lui a injecté à 14h, est intenable, je tiens à vous signaler qu'exceptionnellement, 1000 grammes c'est beaucoup, mais c'est ce qu'il fallait. Il fallait une dose de cheval pour vous, car on vous connaît. Un kilo, tout rond, un kilo exactement, je n'ai pas du tout buté sur les mots, c'est exactement ce que j'avais prévu de dire. Je tiens à vous signaler qu'exceptionnellement, je ne consacrerai pas cette intro aux aventures de Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, dont j'ai découvert ce week-end qu'il n'était pas filloniste, comme je le répète, mais jospiniste. Je lui présente donc toutes mes excuses concernant les 596 éditos dans lesquels je l'ai fait passer pour un boomer macho un peu réac sur les bords, alors qu'il est dans la vie tout l'inverse. Un jour, il nous a même avoué que l'hétérosexualité n'était pas son seul horizon et qu'il restait ouvert à l'imprévu. Une phrase à laquelle j'ai repensé en préparant cette émission sur la bisexualité, et brusquement, la vérité m'est apparue dans son affligeante simplicité. Voilà 3 ans maintenant qu'avec Manon et Quentin, nous cherchons à découvrir à qui Cyril a roulé des patins, puisque c'est ainsi qu'on disait à l'époque, dans la fosse du concert de Prince à Paris au début des années 2000. Rencontre furtive mais torride qui enflamme notre imagination, mais qui se heurte toujours à un mur de silence concernant l'identité de cette personne, dont Cyril nous a simplement dit qu'elle était, je cite, « dans l'univers du cinéma ». Et nous, l'esprit englué dans le moule d'une sexualité hétéronormée, on cherchait en vain une actrice, Béatrice Dalle, Emmanuel Béart, Juliette Binoche, alors qu'en fait, la réponse nous avait été donnée ici même, non, en studio par un bel après-midi d'octobre.
On est pendu à vos lèvres.
C'était Pascal Elbé, ce bon vieux.
On a plus entendu.
Non, mais parce que Gislain Fontanel a décidé de travailler un minimum aujourd'hui. Il nous a fait un extrait d'une fraction de seconde, d'un extrait qui durait 12 secondes. Cette parenthèse passionnelle, ces minutes sauvagement arrachées au camp, dira-t-on, ce n'est pas avec une actrice que Cyril les avait vécues, mais avec un acteur. Et quel acteur ? On embrasse Pascal Elbé, peut-être pas aussi intensément que Cyril dans la fosse, mais on l'embrasse. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen.
Crache le morceau.
C'est le moment de le dire,
Cyril Lafosse,
non,
vous écoute.
Non, continue. Imagine. Bonjour Camille Test.
Oui, bonjour Camille Test.
Bonjour tout le monde.
Bienvenue dans la bande Camille, vous nous connaissez un petit peu. Vous êtes journaliste, essayiste et animatrice du podcast Encore Heureux, consacré à la santé mentale et dans lequel vous vous interrogez sur la place du bien-être dans notre société. Et vous avez publié il y a quelques jours Embrasser la bisexualité aux éditions Les Renversantes, un essai dans lequel vous cherchez à désinvisibiliser cette orientation sexuelle et déconstruire les stéréotypes nombreux, on va le voir, qui lui sont associés. Vous allez tout nous expliquer. Juste le temps de vous présenter mes fidèles acolytes, Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour à tous.
À vos côtés Camille, même si certains au sein même de Radio France persistent à lui adresser des mails commençant par « Cher Marion ». Vous le savez, vous qui êtes déjà venu dans Zoom Zoom, son vrai prénom c'est Manon, c'est toujours important de le rappeler.
Merci
Manon...
Mathieu de le préciser.
Oui, c'est bien, on va le faire tous les jours. Hein.
Dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Une chanteuse belge qui s'est fait outer sa bisexualité par Cyril Hanouna, mais aujourd'hui elle en a fait un symbole et un exemple pour des millions de jeunes femmes.
Face à vous Camille, sa petite amie a découvert récemment le poteau rose qu'il lui avait jusqu'alors soigneusement caché. Il est bisexuel, il aime autant les femmes que les cartes. Quentin, ce week-end, vous avez été contraint et forcé de révéler à votre compagne votre projet d'achat d'un kart en multipropriété. Ma question est simple, à l'heure où on se parle, est-ce qu'elle est toujours avec vous ?
Mais non, c'est vous qui avez balancé ça, mais pas du tout.
Comment ça, pas du tout ?
Pour l'instant, rien n'est fait.
Oui, mais vous en avez la ferme intention. Et elle ?
Et vous insinuez que je suis mécanophile ?
Oui, c'est ce que j'insinue.
Très bien.
Mais vous avez, ça dit, parfaitement droit. Ici, on ne juge pas, vous le savez.
Ah oui, ça, non.
Quentin, chaque matin, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre thème du jour. La bisexualité, ça leur évoque quoi ?
Et c'est un thème pas si évident dans la rue entre a priori et religion, qui vient quand même, heureusement, se glisser une petite vérité simple. L'amour, parfois, déborde quand même des cases et ça fait du bien, on va l'entendre, un micro-trottoir complètement à la rue, dans la prochaine demi-heure, au Laker.
Vers 16h30, nous jouerons avec le sexe. Hélas non, Quentin, à l'heure du goûter, on ne peut pas se permettre de telles familiarités.
Ça
on jouera au zoom zoom tête, elle est très très longue.
Ouais.
Vous avez
c'est
des,
ma veste,
des pantalons, ouais. C'est votre veste en fait. On jouera au zoom zoom tête consacré aujourd'hui aux pratiques sexuelles préférées des Français et des Françaises. Voilà, vous pouvez refermer, quoique c'est peut-être inutile d'en fermer, car juste avant 17h, c'est GC qui nous rejoindra.
Ah oui.
Après 17h, en revanche, on retrouvera notre sérieux puisqu'on recevra François Gémen pour zoomer sur cette incroyable contradiction, la Chine qui se revendique modèle écologique tout en restant le premier pollueur mondial. On en parlera à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron demain à Pékin. Mais d'abord, zoom donc cet après-midi sur ce qui est un peu l'angle mort du mouvement LGBTQIA+, la bisexualité. Camille Test, on a une une heure pour rentrer dans le détail, mais est-ce que déjà être bisexuel, c'est être à la fois hétérosexuel et homosexuel, ou c'est une autre sexualité à part entière?
Mais là, vous posez une question qui crée de très nombreux débats dans les milieux queer, mais je dirais que, en fait, être bisexuel, ça veut dire être attiré par plus d'un genre. Donc, en fait, ça serait être effectivement à la fois hétérosexuel et homosexuel. Moi, j'aime bien, par exemple, dire que je suis 100% hétéro, 100% lesbienne et 100% bisexuel.
Mais en fait, l'idée, et si on pouvait la résumer encore plus, c'est juste, peu importe le sexe, vous tombez amoureux d'une personne, quelle qu'elle soit, quel que soit son sexe. Le sexe n'a aucun impact sur le fait que vous aimez ou pas quelqu'un, ou que vous ayez une attirance ou pas.
Bah, disons qu'en fait, quand on est bisexuel, on n'est pas monosexuel. Ça veut dire qu'effectivement, le sexe, ou moi je dirais plus le genre de la personne, n'a effectivement pas particulièrement d'impact. Et du coup, on pourrait se dire, en fait, pourquoi c'est un problème? Pourquoi je viens vous en parler aujourd'hui? Je viens vous en parler parce qu'en fait, la plupart des gens pensent littéralement que la bisexualité n'existe pas, ou alors que c'est une espèce de déviance. On associe ça parfois à de la bipolarité. Enfin, on reviendra sur ces stéréotypes. Le fait est qu'aujourd'hui, 10% des jeunes se disent bisexuels, donc c'est énormément de gens, ça veut dire que dans 3 générations, peut-être on sera à la moitié des gens qui se diront bisexuels, donc c'est important, je pense, d'avoir cette conversation.
C'est important d'en parler. Lui, on le sait depuis son coup de foudre en direct avec Pascal Elbey, il est ouvert à tout, mais dans certains domaines, cette ouverture d'esprit va trop loin. Surtout pour Manon, qui ne s'est pas remise de cet aveu qu'il nous a fait l'autre jour. Cyril, notre rédacteur en chef, bobo parisien pur jus, pilier du 10e arrondissement, envisagerait d'aller s'installer à Montrouge. Mais Cyril, avec un bandeau sur les yeux, avec Frédéric Lopez qui tient la main, avait demandé Manon, affolée. Non, simplement pour acheter plus grand, quoi, avait répondu Cyril. Eh oui, l'ouverture d'esprit n'est pas le fait de tout le monde dans cette équipe.
Mais
Cyril,
c'est
exactement ce que vous avez dit, Cyril. Assumez votre passion pour Montrouge. Et peut-être même Malakoff. Enfin, je dis ça pour les agents immobiliers qui nous écoutent et qui aimeraient vous aider.
Et sa femme aussi.
Évidemment. Racontez-nous, Cyril, la bisexualité, d'où ça sort?
Imaginez deux discours. Un qui vous dit que la sexualité humaine a toujours été fluide, et l'autre qui vous dit que tout doit entrer dans des cases, pas simple. Au milieu de tout ça, la bisexualité, évidente puisque très ancienne et pourtant sans cesse contestée. C'est de ce tiraillement que naît la notion moderne de bisexualité. Je dis moderne car dans l'Antiquité, les Grecs n'auraient jamais pensé à utiliser ce mot. La sexualité n'était pas une affaire de genre, mais de catégorie sociale, de pratique et d'âge aussi. À partir du 12e, ça se complique. L'Église codifie ce qu'elle appelle le bon désir, et tout ce qui sort du schéma homme-femme ne fait pas partie de ce bon désir. La bisexualité n'est pas spécifiquement nommée, on la colle avec tout le reste dans les péchés. C'est à la fin du 19e que les sexologues commencent à employer le terme bisexualité. D'abord pour désigner un mélange biologique des sexes, puis pour qualifier l'attirance pour plusieurs genres. Et à l'époque, la bisexualité est un objet médical, même presque une curiosité de laboratoire.
Et ça va durer longtemps comme ça.
Oui, d'autant même que quand, dans les années 70, les mouvements gays et lesbiens commencent à se faire entendre dans le débat public, la bisexualité peine à trouver sa place. Elle est à la fois dedans et dehors, et pour certains, c'est même une menace pour la cohésion militante. Il faut attendre les années 2010-2020 pour que la bisexualité devienne véritablement visible dans la culture populaire, sur les réseaux sociaux et dans les séries, avec quand même parfois les caricatures qui vont avec. Alors, d'où ça sort la bisexualité? Eh bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. C'était quoi? C'était le...
D'où ça sort?
Ça, c'est pour montrer à Camille qu'on a progressé en production dans l'émission depuis qu'elle est venue la dernière fois.
C'est extrêmement impressionnant.
C'est impressionnant. Hein. Ça vaut le dernier Gilbert Montagnier, je crois, on peut le dire. Camille Test, pourquoi? C'est mieux, vous pensez mieux.
Oui. Et le Chalençon aussi, là. Gardez les bijoux.
C'est mieux que le Chalençon.
Enfin, rendez les bijoux.
On n'a même pas compris le sens de la chanson.
Ça, c'est un message adressé à ses complices.
Catastrophe. Maintenant, j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on revienne à notre sujet. La bisexualité.
Que j'ai proposé.
C'est vrai, c'est votre sujet aujourd'hui. C'est votre sujet. Camille Test, pourquoi la bisexualité a toujours été comme ça, à la marge de la société, et puis même à la marge des combats pour les droits LGBT? Ça surprend un peu.
Je pense qu'on peut dater ça au 19e siècle, quand les termes homosexuels et hétérosexuels naissent, d'abord en contexte militant sous la plume d'un certain Karl Maria Kertbeny, qui va nommer les homosexuels pour, en quelque sorte, nommer des gens qui sont victimes de persécutions et qui ne devraient pas l'être, en fait. Donc ça naît vraiment en contexte militant. Ces termes vont être très rapidement, vous l'avez dit Cyril, captés par le monde de la psychiatrie, les premiers sexologues qui vont en faire des déviances à corriger. C'est là que va naître le mot bisexualité. Mais le truc, c'est qu'en fait, très très vite, le mot bisexualité, le concept, ça vient... causer du flou, de la complexité, et donc on va rester sur cette dichotomie homo-hétéro. C'est elle qui va s'imposer, notamment sous l'influence d'un certain Freud, que vous connaissez peut-être, qui va décrire la bisexualité comme un état infantile, immature, voué à disparaître, et en quelque sorte, qui va empêcher les bisexuels de se penser comme une catégorie adulte et stable. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est qu'en fait, ça va arranger tout le monde. Dans un monde où il n'existe pas la bisexualité, et où par ailleurs être hétéro vous confère des privilèges, privilèges, ben finalement, pour être, prouver votre hétérosexualité, c'est très simple. Vous avez juste à dire, je suis, par exemple, vous êtes un homme, je suis attiré par une femme, bon, ben, vous êtes hétéro, vous avez les privilèges qui vont avec. Si la bisexualité existe, dire je suis attiré par une femme ne vous permet plus de prouver que vous n'êtes pas en fait une personne queer et donc à persécuter.
C'est socialement que ça pose problème, en fait, la bisexualité. Enfin, la société telle qu'elle est construite...
En fait, ce qui est intéressant, ce qui m'a beaucoup intéressé en écrivant ce livre, c'est que je me suis rendu compte que ça embêtait tout le monde. C'était le caillou dans la chaussure de tout le monde. C'est le caillou dans la chaussure des hétéros, j'ai envie de dire, mais aussi, en quelque sorte, des personnes homosexuelles. Et ça, on le voit bien, vous l'avez un peu dit, Cyril, dans les années 70, quand les grands mouvements de lutte homosexuelle émergent, et ben, finalement, les bis, ça complique tout. C'est beaucoup plus pratique de venir se poser comme une entité stable et à part des hétéros, hein, pour revendiquer des luttes et revendiquer son combat et ses droits. Et donc, les bis, voilà, c'est ceux qui viennent un peu... gommer les différences hétéro-homo, c'est ceux qui viennent créer du flou, donc on leur demande, et il y a de nombreux témoignages en ce sens, de plutôt se dire homo et pas bi. On est 50, 60, 70 ans plus tard, et en fait on nous demande toujours de ne pas nous dire bi, ça pose toujours question. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de bisexuels en ont un petit peu marre de cette rhétorique-là.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Elle est peut-être la plus mal vue des sexualités LGBTQIA+. On zoome cet après-midi sur la bisexualité avec Camille Test, auteure justement de « Embrasser la bisexualité » aux éditions Les Renversantes. Camille, vous commencez votre livre par ces chiffres. Plus de 4% des femmes et près de 4% des hommes se définissent comme bisexuels en France. Mais chez les jeunes de 18 à 30 ans, ce chiffre grimpe à plus de 10%, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Ça veut dire qu'on s'affirme aujourd'hui plus volontiers bisexuel qu'auparavant ?
Oui, absolument. Ça ne veut pas forcément dire que plus de gens sont bisexuels d'avant, mais qu'on a peut-être plus de facilité à le dire, à la fois parce qu'en fait on est quand même dans une société moins homophobe qu'avant, donc des gens qui auraient...
On explore plus aussi.
Peut-être. On explore plus, on a plus de facilité à se dire. Par contre, ce que ça n'est pas, c'est une conséquence du fait que les gens trouveraient ça cool de se dire bisexuel, un stéréotype qu'on entend très souvent.
C'est-à-dire que voilà, ça serait une mode pour un peu attirer l'attention sur soi. Moi, je suis bisexuel. Alors que c'est quelque chose de viscéral, j'imagine. Enfin,
c'est drôle parce qu'on écoutait Madonna juste avant, elle fait vraiment partie de ces stars à qui on a dit, qui bisexuelles, hein, qui se sont déjà dit bisexuelles et à qui on a dit, mais en fait, elles font ça pour attirer l'attention. Quand on voit le niveau de violence, de pauvreté, de précarité et les chiffres de santé mentale, dépression, addiction, suicide, automutilation dont sont victimes les personnes bi, vraiment, c'est pas du tout une orientation sexuelle cool, hein, c'est juste une réalité comme une autre. Je pense pas que ça tienne longtemps des gens qui s'inventent ça pour faire les malins.
Ce qui semble complètement fou, c'est ce tabou sur la bisexualité, ce regard qu'on peut porter comme ça, stéréotypé sur la bisexualité, alors que les représentations, pour le coup, ne manquent pas. Vous en citez dans votre livre, Alexandre Legrand, Lord Byron, l'économiste John Keynes, George Sand, Colette, Simone de Beauvoir, Greta Garbo, enfin, David Bowie. Enfin, la liste, elle est longue de personnes qu'on admire tous. On n'a pas de problème de représentation de la bisexualité.
En fait, on a un problème parce que là, vous listez ces gens, mais si je demande dans la rue, est-ce que vous connaissez des personnes célèbres bisexuelles, la plupart des gens, ça va absolument pas venir. Tout simplement parce qu'encore une fois, c'est une orientation sexuelle qui est souvent cachée. On va souvent dire que les gens sont hétéros parce que de toute façon, dans nos têtes, on pense que les gens sont hétéros par défaut. Et puis même c'est le cas par exemple de Virginia Woolf, James Baldwin, Oscar Wilde, c'est aussi souvent des profils qui ont été racontés comme homosexuels, alors que non, c'est bien des profils bisexuels. C'était le cas aussi de Freddie Mercury dans ce biopic qu'on a vu, qui est l'un des films qui a été les plus vus au monde. Il est présenté comme un homme homosexuel, et en fait il l'est pas, et c'est dommage parce qu'on est vraiment passé à côté d'une occasion de présenter l'attirance pour plus d'un genre comme une réalité comme une autre.
Mais est-ce qu'il y a une différence aussi entre les femmes qui se disent bisexuelles et les hommes qui se disent bisexuels ?
Si c'est une différence en termes de chiffres, les femmes ont plus de facilité à se dire bisexuelles, je pense, parce que malgré tout, c'est plus facile d'avoir une forme de fluidité, d'attirance romantique ou sexuelle quand on est une femme qu'un homme encore aujourd'hui. Quand on regarde dans les chiffres, par exemple, les femmes bisexuelles sont particulièrement victimes de violences, un petit peu plus que les hommes, mais en même temps, les hommes bisexuels ont aussi des enjeux qui leur sont propres, donc dans les deux cas, on va dire en termes de situation de sécurité, de santé mentale, etc., c'est pour les deux genres vraiment pas
mais
si
mais c'est
simple.
Plus compliqué de faire son coming out bi quand on est un homme.
Quand on est un homme, oui, et notamment, enfin moi, une de mes théories, c'est que il y a quelque chose qui a été vraiment particulièrement violent pour les hommes bisexuels, ce sont les années du VIH-SIDA, c'est parce que on a vraiment présenté les hommes bisexuels dans les années 80-90 comme ces passeurs de SIDA depuis les communautés gays aux communautés hétéro, et ça a fait un mal considérable aux hommes bisexuels.
Vous demandez aussi dans votre livre si finalement le mot en lui-même, bisexualité, n'est pas à l'origine du flou qu'il entretient. Déjà peut-être sur le préfixe bi, et pourquoi il est caduque, selon vous ?
Bah, c'est une bonne remarque. En fait, quand on nomme la bisexualité, on nomme l'attirance pour les hommes et les femmes. Parce qu'on n'est pas du tout, on n'a pas du tout eu au 19e siècle cette conversation sur le genre, le fait que finalement le genre ne serait pas binaire, qu'il y a des gens qui se reconnaissent ni dans hommes ni dans femmes. Quand la grande conversation sur le genre commence à avoir lieu, à partir des années 70-80, encore plus 90-2000, là, finalement, le bi pourrait laisser penser que les personnes bisexuelles ne reconnaissent que les hommes et les femmes. Dans les communautés LGBT, on va parfois entendre ça, c'est un stéréotype que je considère comme biphobe, les bi seraient attirés, enfin seraient complètement ignorants des personnes, je sais pas, trans, non-binaires. Bon, en réalité, à partir du moment où cette grande conversation sur le genre a lieu, les personnes bi ont cette conversation, et aujourd'hui, vous parlez à des personnes bi, en général, on va plutôt vous dire « je suis bi parce que je suis attirée par plus d'un genre ». Moi, personnellement, je ne revendique pas le fait d'être attirée uniquement par les hommes et par les femmes, comme si le reste n'existait pas, quoi.
Un jour, sa petite amie le surprendra dans un box en banlieue parisienne en train de caresser un kart avec une peau de chamois. Chacun sa sexualité, ici personne ne juge. Quentin, faites ce que vous voulez de vos petits week-ends, tant que vous en rapportez un micro-trottoir de qualité, ce qui, j'en ai l'intuition, sera encore le cas aujourd'hui.
Je descends les marches de l'escalier du palais de Tokyo. L'esplanade à la pierre blanche offre une vue superbe sur la tour Eiffel qui a laissé sa tête dans les nuages ce matin. Ici, je croise ce groupe de lycéens qui découvre notre mot du jour.
La bisexualité.
Non, nique pas.
C'est quand on aime les femmes et les hommes.
C'est une affaire personnelle, tant qu'ils nous l'imposent pas, je pense que ça me dérange pas.
Comment ça, ils nous l'imposent pas ?
Bah, comme dans tout, il peut y avoir de l'extrémisme un peu, et donc des gens qui voudraient imposer ça, mais dans le...
Ouais, ce serait quoi, des bisexuels extrémistes ?
Des gens qui veulent imposer et imposer ça aux gens, je sais pas.
Je pense vraiment qu'il y a des gens qui vont dire
non, mais
il faudrait que tout le monde soit bisexuel.
Il y a des extrémistes.
Il est intéressant ce tant qu'il ne nous l'impose pas, comme si c'était quelque chose qu'on pourrait imposer, bref. Plus loin, ce monsieur, un homme d'expérience, certainement à la retraite. Il découvre le mot sur lequel on se penche aujourd'hui.
Bisexualité. Ma religion m'interdit tout ça. Je ne suis pas de cet avis.
Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que les jeunes sont plus ouverts et donc...
Les jeunes peuvent être ouverts, mais moi, ma position, c'est que ça ne me dit absolument rien de par mes convictions religieuses. Je vais décourager tous ceux qui vont dans ce sens-là.
C'est-à-dire ?
Mais de ne pas faire la bisexualité. Dieu nous a créés tels, et quand il nous créait, tout était bon. À quoi ajouter encore un plus ?
Décidément, on n'est pas sur une grande ouverture d'esprit, mais c'est important de voir que le sujet dans la rue n'est pas si simple. Heureusement, je tombe sur ces deux-là, deux jeunes gens qui sont en pleine discussion. Je ne sais pas de quoi ils parlent, mais ils se sourient en traversant la rue. Bonjour.
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 Quels sont vos prénoms ?
Julio.
Léo.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? C'est quoi votre truc à vous ?
Le chômage non rémunéré.
Je leur tends notre mot du jour.
Représentante officielle, bonjour, enchantée.
Allez-y, dites-le
moi. Je suis la bisexualité. La bisexualité, bah moi je suis bi.
La bisexualité, c'est moi.
C'est moi, je suis officiellement. Non, ouais, bah la bisexualité, c'est trop chouette. C'est juste peut-être que ça revient plus à la mode avec. L'ouverture des jeunes peut-être à des nouvelles sexualités ou à se réapproprier la façon de relationner.
Ouais, certainement. En revanche, elle me dit qu'elle a un problème avec l'utilisation du terme pansexualité.
La pansexualité, c'est d'inclure, a priori, en théorie, les personnes trans. Sauf que l'homosexualité, de base, le mot de base, incluait aussi dans sa définition un genre ou plusieurs, ou la non-binarité du genre. Donc pansexualité, pour moi, c'est un peu comme le métrosexuel, c'est un concept pour se différencier, pour dire « non, moi j'accepte les personnes trans ».
Après avoir mis les points sur les « i », je me tourne vers Léo. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux forment justement un couple bisexuel. Je lui demande s'il est souvent sorti avec des hommes.
Pas beaucoup, j'ai eu un peu d'attirance pour des garçons des fois, mais c'est assez rare. Après, c'est quand tu dis un mot de notre époque, pour moi c'est lié au fait que c'est des questions qu'on se posait pas il y a si peu longtemps que ça, c'est-à-dire que même le terme hétérosexuel entre guillemets est un peu nouveau dans le sens où les gens se disaient juste je suis normal ou je sais pas, enfin dans la tête des gens c'est vrai que souvent les gens sont soit hétéro soit gay, du coup on peut pas...
Ça transporte quand même ce véhicule de... Les bi ne sont pas des vrais, les personnes bisexuelles ne sont pas une vraie catégorie, c'est genre un truc un peu bâtard.
Ouais, c'est perçu comme une étape avant de se décider et c'est pas confortable pour elle. Je lui demande comment ça s'est passé avec son entourage, sa famille.
Moi j'ai l'impression de faire des multiples coming out en fait, c'est qu'à chaque fois j'ai beau dire, quand on me demandait si j'allais ramener un garçon ou un garçon, je disais ou une fille, c'était perçu soit comme une blague, soit comme des mots en l'air, mais j'ai dû répéter je pense à mes grands-mères 4 fois que j'étais bisexuelle sans que jamais elles ne l'entendent réellement. Donc en fait, c'est pas genre j'ai pas fait un coming out en mode papa, maman, faut que je vous parle. Je pense que j'aime un peu juste n'importe qui si la personne me plaît. Bah, tu fais jamais un coming out, mais tu fais des multiples sorties à tes proches. Enfin, en fait, c'est que c'est super bizarre comme question. de pas se dire de base, peut-être que cette personne, elle va me présenter juste n'importe qui.
Et en les quittant, je me dis que si tout le monde parle de bi, très peu écoute vraiment ce que ça raconte. Aimer au-delà du binaire, bi, c'est pas une hésitation, c'est une ouverture, une manière de dire que le cœur parfois refuse de se laisser coincer dans une seule case. Bi ne veut pas dire moitié-moitié, au contraire, c'est deux fois plus d'amour.
Merci Quentin. Camille, je vais vous laisser rebondir sur ce micro-trottoir, mais juste pour les gens qui nous écoutent, les jeunes notamment, c'est peut-être important de répéter ça, la bisexualité, c'est pas une phase intermédiaire, on n'est pas dans un sas d'attente, une salle d'attente pour choisir quelle orientation sexuelle on veut. On peut être bisexuel toute sa vie, aimer homme-femme, tout genre confondu, et ça peut être son identité sexuelle toute une vie.
Oui, pour la plupart des gens, c'est tout à fait stable, on est attiré par plus d'un genre tout au long de sa vie, et finalement, si ça change, c'est pas grave, hein. C'est aussi ok de tout à coup de se dire, finalement, je suis hétéro ou lesbienne ou gay, mais c'est vrai que pour beaucoup aussi peut-être parce qu'historiquement certaines personnes gays et lesbiennes se sont ont pu se dire bisexuelles à un temps donné avant finalement de transiter vers l'homosexualité. Mais oui, pour la plupart des bi, on reste bi, on est bi, et si on était davantage représenté, moi je dis souvent, j'aurais adoré grandir avec des représentations positives si possible de bisexualité, parce que je me serais pas interrogée pendant 20 ans sur est-ce que j'aime les filles, les garçons, est-ce que je suis en train de me mentir, qui suis-je, où vais-je, quoi.
Un mot sur les pans, on a parlé de pans sexuels. Est-ce que c'est une nouvelle manière de dire bisexuel, mais pour les jeunes aujourd'hui, en 2025?
Alors, c'est pas tout à fait nouveau, parce que c'est un terme qui existe quand même au moins depuis les années 90, voire plus. Je pense qu'effectivement, c'est un terme qui a été utilisé pour répondre au fait que, comme je vous le disais, le terme bi pourrait être transphobe ou autre, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas. Contrairement à cette personne, peut-être, dans le micro-trottoir, j'ai aucun problème à ce qu'on se dise pan. Enfin, en fait, les gens se définissent comme ils veulent, et d'ailleurs, ils ont aussi le droit de pas se définir. Pour autant, effectivement, j'ai l'impression que parfois, on peut l'utiliser un petit peu dans l'espoir d'échapper à une certaine forme de biphobie, d'échapper au fait que quand on met le mot bisexuel, tout de suite ça vient avec des stéréotypes extrêmement dégradants. Je suis pas sûre que dans les faits ça marche, parce que quand on voit les chiffres de santé mentale et de violence vécues par les personnes pans, c'est tout aussi catastrophique, voire pire.
J'avais fait une chronique sur les chanteuses notamment accusées de queerbaiting quand elles disent qu'elles sont bi, c'était le cas de Billie Eilish par exemple. En fait, les gens ne les croient pas et pensent que c'est un outil commercial aujourd'hui, la bisexualité.
Ouais, on parle de queerbaiting, donc l'idée que finalement ça serait pour attirer les communautés queer, pour je sais pas, qu'ils achètent des disques ou autre. Et le problème de ça, c'est que finalement ça demande aux personnes bisexuelles de faire des coming out officiels. C'est arrivé par exemple à Kit Connor, acteur de la série Heartstopper, qui à 18 ans a subi du harcèlement sur les réseaux sociaux parce qu'on l'a vu main dans la main avec une femme dans la rue, et en fait il a dû dire allô, je suis bisexuel, personne n'avait pensé au fait qu'il était bisexuel. Donc ça peut avoir évidemment des conséquences dramatiques, parce qu'en fait un coming out forcé sur les réseaux sociaux quand on est un acteur connu, vraiment c'est une violence en fait.
Il reste un petit obstacle aussi à l'acceptation de la bisexualité, c'est la religion. Effectivement, on a entendu un homme témoigner de ça dans le micro-trottoir aujourd'hui avec certaines chaînes info qu'on ne citera pas, où disons que cette parole-là est véhiculée, la place de la religion est renforcée. C'est peut-être inquiétant quand on est bisexuel aujourd'hui d'entendre ce discours-là.
Bah, de toute façon, d'une manière générale, appartenir à la communauté LGBTQ+, c'est inquiétant. On est dans une situation politique avec des forces réactionnaires qui se font de plus en plus entendre, qui sont de plus en plus financées. Évidemment que les bi n'échappent pas à ces violences. Je dirais même que le fait qu'on soit extrêmement invisibilisé et voire considéré comme privilégié par certains parce qu'on aurait un supposé pied dans l'hétérosexualité fait qu'on ne pense pas forcément au fait qu'on a besoin, nous aussi, de nous protéger, y compris les bi en couple hétérosexuel, puisque je le rappelle, par exemple, si vous êtes en couple hétéro, vous êtes au contact de personnes qui sont potentiellement homophobes, qui peuvent vous violenter. Enfin, évidemment que le fait d'avoir l'air hétéro ne vous permet pas forcément d'être protégé, c'est même un petit peu le contraire.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Il est rare que pour le quiz, je me base entièrement sur une étude, car la méthodologie est parfois contestable. Par exemple, d'après une étude du GLAN, le groupe La Carrière d'Adalys Nationale, 100% des participants au Zoom Zoom Test sont des grosses tanches. Une enquête impartiale et méthodique menée sur un échantillon d'une personne, le boss du GLAN lui-même. Néanmoins, aujourd'hui, pour évoquer les pratiques sexuelles des Français, je vais m'appuyer sur une étude statistique passionnante et bien réelle, celle du Sex Report, réalisée en partenariat avec l'Institut Trends Research, menée sur les 18-65 ans en 2025.
Ah oui, c'est large.
Au Zoom Zoom Test, c'est très large, Manon, c'est très large. Un quiz qui, je m'en excuse d'avance, est susceptible de donner le rose aux joues à ceux qui pratiquent les joies de l'amour charnel une fois l'an. Rideau tiré, sous le crucifix de Jésus-Christ, notre sauveur, tourné vers Saint-Jacques de Compostelle, j'embrasse donc mon épouse. Oh. Attention, première question à choix multiples. Selon donc cette étude du Sex Report sur les 18-65 ans, laquelle ou lesquelles de ces trois affirmations est ou sont exactes. 28% de nos compatriotes ne sont pas satisfaits de leur vie sexuelle. 28% des participants ont des rapports sexuels une fois par mois maximum. Ou 28% se masturbent au maximum une fois par mois.
Il y a c'est plusieurs réponses.
Et les trois.
Je vous l'ai dit,
mais me reposer les questions.
Les trois, c'est une bonne réponse de Manon.
Ah
de toute façon, c'est plié, Quentin. Vous avez été lent, vous avez été mou. Et Manon
c'est
a été
vraiment
très
les trois. Non, parce qu'après, j'allais dire
AB. Mais ne dites pas autre chose, vous avez la réponse. C'est incroyable.
C'est quoi le C?
28% se masturbent au maximum une fois par mois.
Ok.
Comme dirait Julien Lepers au beau milieu d'une partouze.
Ah oui.
Les trois, effectivement, rien de choquant dans ces chiffres. Chez les Noëls, on est finalement quasiment dans la norme. Il faut dire que la bouillave, jadis activité récréative par excellence, souffre aujourd'hui d'une forte concurrence. Prenons par exemple Manon. Dieu sait qu'elle est portée sur la chose. Elle a même poussé le vice jusqu'à quémander à l'antenne la marque Passage du Désir pour se faire offrir un calendrier de l'Avent coquin.
Bingo, j'en ai eu un. Voilà,
comme celui de Cyril, mais avec d'autres types de saucissons. Pas forcément mini. Bref. Eh bien, même Manon pratique moins qu'avant. Depuis qu'elle a l'abonnement en premium Apple TV+, une PS5, et puis il y a aussi tous ces restos, le fooding conseil qu'il faut bien Instagrammer, et la carrière aussi, c'est important. Bref, vous l'aurez deviné, 44% des millennials préfèrent aujourd'hui manger que chatouiller le nénuphar, comme dirait Cyril. Travailler que planter le javelot dans la moquette, comme dirait toujours Cyril. Ou regarder une série plutôt que de mettre la tarte au four, comme dirait toujours ce bon vieux Cyril.
Allez, trois, hein.
C'est
A.
C'est une bonne réponse une fois plus de Manon qui décidément touche sa bille en matière de sexe. Alors j'avais donné un indice, effectivement Manon, pour suivre à la fois Stranger Things, Pluribus, Los Años Nuevos et Julie Lescaut, il faut forcément faire l'impasse sur autre chose. À un moment les journées font 24 heures.
Je vous rappelle quand même qu'il y a un épisode par semaine de toutes ces séries. Donc
vous
voilà.
N'arrêtez pas de jouer aux jeux vidéo, vous n'avez plus le temps.
Mais ma vie va très bien, hein.
C'est
ne vous inquiétez pas.
De ça
oui.
Nous ne sommes pas là pour
parler la vôtre.
Oui.
Vous voulez qu'on parle ?
Pour pas porter la frustration sur les autres.
Nous ne sommes pas là pour parler vie privée. Oui. Parlons plutôt de celle des Français. Selon ce fameux Sex Report de 2025, laquelle ou lesquelles de ces affirmations est ou sont vraies ? Le voyeurisme est le fantasme préféré des Français. Pas étonnant. 72% des sondés avouent avoir été infidèles. Quelle indignité.
Oh non, c'est beaucoup.
Ou 47% en ont marre des sondages à la con et des micro-trottoirs.
Ah, les trois. Les trois. Pardon.
Je vous donne l'opportunité d'une autre réponse.
A et B.
Encore une.
B et C.
Encore une.
A et C.
Toujours plus.
Les trois.
J'ai dit les trois.
Aucune des trois. Ah. Vous êtes tombés dans le piège comme des lapins dans les phares d'une voiture sur la 6. Mais pauvre Lapinou, c'est évidemment le plan à trois qui fait figure de fantasme numéro 1 des Français, toutes générations confondues. Dès la carrière avec Laetitia Casta, les Mariani avec Pedro Pascal, les Noël avec Shlomo. Le plan à trois qu'on appelle chez les courades apéritif dînatoire est donc le fantasme number one des Français. Et vous allez me dire, car je vous sais latiniste, quid du plan à quatre?
À 4, c'est immonde. Déjà qu'à 2, c'est dégueulasse.
Bien dit Pelletier. Et pour mettre la dernière touche à ce tableau des préférences sexuelles de nos compatriotes, penchons-nous à présent sur un sondage du très sérieux institut IFOP, commandé par le plus léger site libertin Wild, où Gourgandine et Gourgandin remplissent leur carnet de balles sous des pseudonymes aussi fleuris que Bellebuche 61 ou Cherche au but 17x6. Cyril Flûte. Un sondage original qui vise à dresser une cartographie des pratiques des Français en fonction de leur appartenance politique.
Ah, c'est Mylène.
On y apprend, c'est Cyril qui nous joue effectivement Libertine, mais enfin,
depuis les toilettes.
La flûte de Pan, depuis les toilettes du 6e étage.
Ça résonne bien.
C'est pour ça qu'il y a ce petit écho.
Une petite réverbe naturelle.
Écoutons la performance. C'est magnifique. Bravo Cyril, continue. Oh, c'est magnifique. Elle accroche et la tient bien. C'est
en sublime. Fait, ça me fait rire.
Ah, écoutez bien, les préférences sexuelles des Français en fonction de leur appartenance politique. On y apprend ainsi que 9% des sondés ont pratiqué l'échangisme. Le résultat grimpe à 23% chez les partisans d'extrême gauche, émouvant sens du partage des gens de gauche. En revanche, à l'autre bout de l'échiquier politique, 23% des femmes ayant voté Marine Le Pen ont déclaré quoi, d'après vous ? Aimer faire l'amour en écoutant la Marseillaise ?
Ouais, ça serait possible.
Fantasmer sur les uniformes ? Ou avoir déjà reçu une bifle.
Je l'ai lu ça, c'est.
Les uniformes, c'est
la bifle. Mais où est-ce que vous avez lu ça, Quentin ?
Quelque part.
C'est la bifle. Moi, je voulais juste que, vous prononciez cette phrase. Et c'est une bonne réponse, effectivement. Oui, 23% des électrices de Marine Le Pen ont connu.
Et c'est vrai ?
Alors attendez, pardon, Manon, mais comment vous savez exactement que ça ne fait pas de bruit ?
C'était un bruit de fouet qu'on vient d'entendre.
Oui, tout à fait, mais c'était pour illustrer. Mais vous nous avez dit que ça ne fait pas de bruit. Très bien. 23% des électrices de Marine Le Pen ont connu les joies de ce jeu qu'on ne peut pas décemment décrire à une heure de si grande écoute, mais qu'on résumera comme une sorte de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », le dernier qui rira aurait une tapette, mais pour adultes. Étonnants électeurs du RN, Manon était-elle déjà au courant de ce goût pour la bifle des sympathisantes de Marine, de par son enquête en immersion chez les identitaires sous le pseudonyme de Carole Buisson,
bien sûr.
La Buisson elle-même peut-elle témoigner ? Oh, on lui demandera la prochaine fois. Victoire en tout cas de Manon Marianne. Oui, bravo
Manon. Merci beaucoup.
Manon ou Carole ? C'est
on, pas, on ne sait pas qui a gagné. Embrasser,
la bise, peut-être.
Embrasser la bisexualité. Contentons-nous déjà de lui serrer la main, m'avait dit notre rédacteur en chef, Cyril Lacarrière.
C'est toi qui as dit ça.
Au début de cette émission. Oui, mais je lui mets souvent tout sur le dos. C'est le titre du livre de notre invitée Camille Test. Camille, vous parlez de nombreuses discriminations et des violences aussi dont sont objets les personnes bisexuelles aujourd'hui. Vous dites que le cliché le plus violent pour vous, c'est celui selon lequel on serait des nids à IST, les maladies sexuellement transmissibles. D'où ça vient cette histoire?
Bah, c'est l'un des clichés les plus violents. Je pense que ça s'inscrit dans un cliché plus large qui est l'hypersexualisation, le fait que finalement on serait une communauté qui a le feu au cul, pardonnez-moi l'expression.
Mais ce qui n'a, il faut bien le rappeler, rien à voir en fait. Enfin, si on aime les hommes et les femmes, c'est
mais
c'est
ça n'a absolument rien à voir.
Les deux ne changent pas.
Oui.
Non, pas du tout. Et en fait, le fait est qu'il y a des bis qui font beaucoup l'amour, d'autres qui ne le font pas du tout. Il y a des bis asexuels, par exemple, qui ont peu ou pas de désir. Il n'empêche que vu qu'on a été beaucoup. Les rares représentations au ciné, par exemple, qu'il y a sur les bisexuels, ce sont souvent des personnes hypersexuelles, voire perverses, des hommes qui parfois vont même avoir des pratiques d'inceste. Enfin, c'est assez violent. Hein. Ça va être aussi des femmes qui non seulement sont hypersexuelles, mais aussi psychopathes. Je pense par exemple à Sharon Stone dans Basic Instinct. Et donc, on va toujours avoir cette image d'une communauté qui non seulement saute sur tout ce qui bouge, mais en plus, finalement, va perpétuer des violences à l'encontre des gens avec lesquels on couche, etc. La conséquence de ça, elle est assez grave parce qu'en fait, un stéréotype d'hypersexualité, c'est la porte ouverte finalement à ce que, par exemple, je ne sais pas, vous êtes en couple avec un partenaire qui considère qu'il devrait être jaloux de vous parce que vous êtes une pute, hein, excusez-moi l'expression, ben, peut-être qu'il va davantage vous violenter, donc violence sexuelle, violence conjugale. Quand on regarde les chiffres, les femmes bisexuelles sont davantage, plus victimes de violences sexuelles et conjugales que les femmes bi et que les femmes hétéro et que les femmes lesbiennes. Et donc, on voit bien que ça a des conséquences très concrètes. Donc, vous avez d'un côté des représentations pas ouf et de l'autre des femmes victimes de violences. C'est pas rien, quoi.
Des conséquences concrètes, des conséquences matérielles. Vous donnez cette statistique, 24% des hommes bi sont sous le seuil de pauvreté contre 12% des gays et 6% des hétéros. Les femmes bi meurent en moyenne 37% plus tôt que les femmes hétéros. Comment on explique ces chiffres?
Bah, c'est des chiffres états-uniens, il faut le dire, parce qu'en fait, on a très très peu de chiffres en France aussi, parce qu'on a, encore une fois, vu que la bisexualité est invisibilisée, personne ne pense à financer des études sur la réalité des personnes bi, donc j'invite vraiment les gens qui en ont le pouvoir à le faire en France aussi. Ces chiffres, en fait, c'est un ensemble de choses. Comme vous êtes victime de stéréotypes, victime de violences, que vous avez une image terrible de vous-même, puisqu'on passe notre temps à vous présenter comme des personnes hypersexuelles, instables ou qui n'existeraient pas, puisqu'encore une fois, beaucoup de gens ne croient pas à la bisexualité, que vous faites moins de coming out, que vous êtes moins accepté dans les communautés queer, puisque, y compris dans les communautés queer, finalement, on vous voit comme des traîtres, on vous voit comme des faux hétéros, etc.
Mais on vous dit quoi concrètement? Comme vous racontez votre histoire personnelle, on vous a fait des réflexions là-dessus?
Oui, bien sûr, ça peut être. Alors, ça peut être, t'es bisexuel, tu vas quand même pas nous ramener ton mec en soirée. Ça va être, moi, je couche pas avec des bisexuels parce que de toute façon, elles retourneront dans le monde hétéro. Il va y avoir aussi beaucoup le registre du dégoût. Donc, par exemple, on va entendre de la part de femmes à l'encontre d'autres femmes, je suis obligée de le dire crûment parce que c'est comme ça qu'on l'entend, mais ça me dégoûte que t'aies touché des bites, quoi. Je suis vraiment désolée de le dire aussi crûment. Ça peut être aussi des hommes qui vont considérer que les hommes bis sont dégueulasses parce qu'eux ont eu des contacts avec des vulves. Ce qui, en plus, est transphobe par ailleurs, hein, parce que je rappelle que la génitalité ne dit rien du genre de la personne, mais voilà.
Vous parlez d'un ami gay qui dit hétéro-curieuse dans le livre?
Oui, parfois, les bis, on va être vus comme des hétéro-curieux. Donc, on va considérer qu'en gros, c'est un peu de l'hétérosexualité un petit peu pimentée, un petit peu épicée, quelque part. Et ça, je pense que c'est souvent une façon de minimiser qu'on est des personnes queer comme les autres. Vous allez me dire, mais pourquoi vous avez absolument besoin qu'on vous valide en tant que personne queer? Mais parce qu'en fait, être queer, ça vient avec un certain nombre de problèmes, et que si on ne nous voit pas comme, en fait, des victimes potentielles de ces problèmes, on ne pense pas à nous protéger. Et très concrètement, on le voit, puisque aux États-Unis, par exemple, encore une fois, c'est là-bas qu'on a les chiffres, la lutte LGBTQ+, la moins financée de toutes, c'est la lutte bisexuelle. Donc c'est vraiment pas anodin du point de vue de comment on est traité aujourd'hui. Et moi, ce livre, il est là aussi pour dire qu'il faut que ça change, quoi.
Embrasser la bisexualité, c'est le livre de Camille Test. Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une chanteuse. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Je parle d'Angèle, évidemment, l'une des stars belges les plus populaires. On la présente plus, elle a cartonné avec son premier album Brawl en 2018. Plus récemment, elle a marqué les esprits pour sa prestation lors de la clôture des Jeux Olympiques de Paris sur Night Call avec Kavinsky. Mais Si je vous parle d'Angèle dans une émission consacrée à la bisexualité, c'est parce qu'elle fait partie des rares artistes à en avoir parlé ouvertement. Le problème, c'est que son coming out lui a été volé. Quand elle a débuté, Angèle s'affichait en couple avec un danseur, puis ils se sont séparés et la chanteuse s'est faite discrète sur sa vie amoureuse. Jusqu'en 2019, quand le magazine Public publie en une des photos d'elle et de sa petite amie. Une info diffusée aussitôt dans l'émission Touche pas à mon poste par Cyril Hanouna, regardée par des millions de téléspectateurs, où il est ouvertement dit qu'Angèle est bisexuelle. Un outing qui a marqué la chanteuse. Elle dira plus tard dans un documentaire Netflix qui lui est consacré que son coming out lui a été volé. J'ai réalisé assez tard que j'étais bi et c'était compliqué. J'aurais préféré choisir le moment. Malgré tout, et pour répondre aux rumeurs, la chanteuse a décidé d'officialiser son couple sur les réseaux quelques mois plus tard dans un post Instagram. Elle pose avec un t-shirt où il est marqué « Portrait of a woman who loves woman » avec le message « Au moins, c'est clair ». Un post liké plus de 500 000 fois. Puis les années qui ont suivi, Angèle a dit à plusieurs reprises qu'elle était bisexuelle et que ça n'avait pas été facile à assumer, notamment son attirance pour les femmes. Elle dit que c'est quelque chose qu'elle réprimait et que ça l'arrangeait d'être aussi attirée par des hommes. Elle parle aussi du manque de représentation autour de la bisexualité. On en a parlé du fait qu'elle est heureuse d'être enfin devenue un modèle pour des jeunes filles bisexuelles. Et en 2023, lors de l'émission Les Rencontres du Papotin, Angèle a même révélé être pansexuelle, ce qui veut dire qu'elle peut avoir une attirance pour une personne indépendamment de son genre ou de son sexe, comme vous nous l'avez expliqué. La bisexualité, du coup, c'est la même chose. Femme, homme, non-binaire, transgenre. Aujourd'hui, la chanteuse se fait plutôt discrète sur sa vie privée et vu ce qu'elle a vécu, c'est compréhensible.
Merci Manon Camitès. C'est important que des figures publiques comme ça parlent, mais en même temps, c'est leur mettre une pression. C'est la vie privée d'une personne. Peut-être qu'elles n'ont pas envie de communiquer là-dessus, mais c'est une bonne chose pour les jeunes, qu'elles aient des modèles auxquels s'identifier.
C'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on se sent normal, en fait. C'est en voyant des gens qu'on admire souvent, c'est le cas d'Angèle. Enfin, moi, le fait d'apprendre qu'elle est bisexuelle, ça m'a fait un bien fou, comme d'autres chanteuses. Je pense à Théodora, par exemple. C'est une femme qu'on admire énormément, mais quel bonheur qu'elle soit bisexuelle. Et je pense évidemment que c'est un problème qu'on lui ait volé son coming out. À mon sens, ça dit beaucoup du peu de cas qu'on fait des personnes bisexuelles. Je suis journaliste aussi, et donc je sais que dans le monde des médias, parfois on a des informations sur la queerness des gens et on ne la révèle pas forcément. Donc moi, je me pose la question, à quel moment est-ce qu'on s'est senti légitime à outer une personne bisexuelle ? Reste qu'en tout cas, aujourd'hui, on a très peu encore d'exemples de personnes bisexuelles connues. En politique, par exemple, on commence à voir quelques hommes gays, quelques femmes lesbiennes. On ne connaît aucun bisexuel. Oui. Citez-moi une personne. Voilà, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est vrai qu'il faut que ça change. Je demande à toutes les personnalités publiques qui en ont le pouvoir et qui en ont l'envie de faire leur coming out, s'ils le peuvent, vraiment, ça serait incroyable pour nous.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Ne l'appelez plus Courade, mais De Courade. Les masques sont tombés la semaine dernière au détour d'une discussion. On se demandait d'où venait à Pierre son air hautain, suffisant, sûr de lui, voire insupportable. On a eu la réponse, je cite, « Oui, avant, dans la famille, on s'appelait De Courade, mais le 15 juillet 1789, on a senti souffler le vent de la liberté de la République et on a effacé la particule. Courage, fuyons, voici le marquis de Courade, roi des mythos, qui nous résume la bisexualité en une minute chrono. »
C'est vrai, mais ça m'a évité d'avoir une noblesse d'empire. Bon, bref, aujourd'hui, on a parlé de la bisexualité. Pas un mot totalement nouveau, pas même une pratique totalement nouvelle, puisque déjà Alexandre le Grand aimait à la fois les escargots et les huîtres, contrairement à Jessé, qui en bon bourguignon n'aime que les escargots. Mais la bisexualité est encore aujourd'hui sujette à débat entre invisibilisation et perplexité. Notre invitée, elle, veut tout simplement rappeler qu'il s'agit d'une sexualité à part entière. Camille Test a écrit « Embrasser la sexualité », un essai dans lequel elle explique à quel point les bis sont encore aujourd'hui victimes de préjugés, ni vraiment hétéro, ni totalement homo. Ils ne trouvent pas leur place dans la communauté LGBT, alors même que le B du sigle signifie bisexualité. Discriminés, ils sont aussi beaucoup plus victimes de violences que les autres. Camille Test explique en effet que les bisexuels sont vus comme instables, merci Freud, voire comme déviants. L'homophobie se mue en biphobie. Malgré tout, de plus en plus de jeunes se disent aujourd'hui bisexuels. Ils sont au moins 10% dans la population française. Signe que la bisexualité n'est plus aussi cloisonnée, qu'elle se libère des genres et que finalement, comme disait Madonna, qu'on a entendu dans cette émission pour la seconde fois de la saison seulement, on est tous probablement bisexuels.
Merci beaucoup Pierre, je n'avais pas vu venir la métaphore avec les escargots, c'était particulièrement bien vu, magnifique. Et justement, c'est au tour de Jessé qui a toujours beaucoup aimé les bisexuels.
Moi les bis, c'est ma spécialité. Hein. Tous ces mecs qui viennent sonner chez moi après avoir dit à Bobonne qu'ils allaient au padel. Une association de sport de raquettes, la Jessé. Mais évidemment, moi je m'intéresse qu'aux manches. Tous ces mecs qui viennent chez moi, évidemment, ils disent pas qu'ils sont bi, hein, ils sont là, je suis pas gay, hein. Mais oui, Alix, t'inquiète, je dirai rien à Marine. Et faites pas les choquer, les auditrices, hein, ma patientèle serait moins garnie si vous mettiez plus de cœur à l'ouvrage, voilà, hein, plutôt que de mater des tutos de Marie Kondo, prenez plutôt des cours de pipeau, voilà, hein, que je suis à deux doigts de lancer ma chaîne YouTube, j'essaie de sucer, voilà. Oui, bah Manon, je te donnerai un abonnement gratuit, évidemment, hein, on va pas laisser ton mec dans cet état. Assumons notre bisexualité. Non, mais c'est vrai, assumons comme notre président, hein, qui baise autant la gauche que la droite. En vrai, c'est beau d'être attiré, on a cru, hein, non ? En vrai, c'est beau d'être attiré par les deux. En vrai, je suis sûr que je pourrais avec une femme. Ouais, et on se ferait des couettes en se prêtant notre gloss. Bon, une fois par semaine, je devrais fermer les yeux et me boucher le nez. Ah, mais finalement, quand Quentin me parle de trop près. Mais est-ce qu'on serait pas tous un peu bisexuels ? Voilà, non, en vrai, moi, je peux faire des trucs avec des filles. Je peux. En plus, je connais les techniques, hein. C'est ces deux doigts-là, comme ça. Voilà, 4 si elle vient d'accoucher, c'est ce que Mathieu m'a dit. C'est ce que Mathieu m'a dit. Et ensuite, un 8 avec la langue. C'est ça, hein ? Mais oui, puis je te l'ai fait décoller, la Marianoche, moi. Mais alors ? Mais bon, ce serait pas ça le plus dur, hein. C'est qu'après, à l'appart, faut se taper ses chroniques. Je préfère encore saigner des fesses que des oreilles. Ah. Arrêtez, je dois dire quelque chose d'important. Ouais, c'est d'ailleurs Freud qui disait... toujours rêvé de prononcer cette phrase. Je pensais juste pas que je la prononcerais entourée d'autant d'imbéciles. Il disait que nous naissions tous bisexuels, mais que c'est un état immature et éphémère, et en grandissant, nous devenons monosexuels, l'hétérosexualité étant le seul développement achevé. Oui, bon, la Freud, elle a aussi dit pas mal de conneries, apparemment. Hein. Je rappelle qu'il pensait que les filles étaient incomplètes parce qu'elles n'avaient pas de pénis. Voilà, oui, alors qu'elles sont incomplètes parce qu'elles n'ont pas de cerveau. Voilà, pardon, désolé, c'était le passage sponsorisé Valeurs Actuelles. Vu qu'il s'intéresse à moi en ce moment, je me suis dit, faut pas que je les déçoive. La bisexualité, c'est pas flou, passager ou éphémère. Hein. Non, ça c'était l'union de la gauche. C'est une vraie sexualité, pas comme les sapiosexuels, par exemple, hein, qui sont là, non, mais nous, le physique, très peu pour nous. Hein. Oh, non, non, hein, nous, c'est l'intellect uniquement. Ouais, puis quand tu regardes, évidemment, que des moches. Hein. Non, j'avoue, je fais le rageux parce qu'ils veulent pas coucher avec moi. Voilà, alors que je cite Freud, quand même. Bref, tout ça pour dire que la sexualité est quelque chose de fluide. C'est pas binaire, avec seulement homo et hétéro. Sauf évidemment pour la courade, hein, parce que pour lui, être bi, c'est pas possible. Je rappelle que La vie d'Adèle, pour lui, c'est un film d'horreur.
Merci beaucoup, Jessé. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et On Stage. On vous retrouve au Mathurin pour 8 dates à partir de juin 2026 et aussi en tournée à Château-Thierry, à Strasbourg, à Auchel ou encore à Marom. Il y a plein d'autres villes. Hein. Toutes les infos sur icigc.com et non pas sur le site YouTube. Voilà. Non pas. Il n'y a aucune date.
C'est une vraie histoire. Sûr,
ils vous ont vraiment proposé. Et
ils m'ont vraiment proposé.
Ah bon, mais non, mais c'est vrai.
Bah oui, c'est vrai.
Mais t'as dit oui.
Non. Combien?
Ça dépend cher, non?
Quentin,
la note de GC a explosé depuis.
Mais non.
En tout cas, merci GC surtout. Et surtout, merci Camille Tess d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle votre livre, merci. Embrasser la bisexualité, paru aux éditions Les Renversantes. Et on peut aussi vous retrouver dans votre podcast Encore Heureux. Zoom Zoom Zen.